J'aimerais commencer ma présentation en utilisant une anecdote que Freud raconte dans le mot d'esprit, donc son ouvrage sur le mot d'esprit. C'est une anecdote que je vais mettre à profit durant toute ma présentation et qui donne son titre donc à ma présentation et qui a aussi donc pour but évidemment de rendre, comme je l'ai mentionné, un peu moins aride une présentation qui sera quand même ancrée dans des informations économiques qui pourraient ne pas plaire à un public non averti. Donc, j'y vais, je me lance dans l'histoire qu'on rencontre chez Freud, qui est une histoire qui me plaît tout particulièrement et que je lis avec vous. Donc, un homme qui s'est appauvri a emprunté 25 florins à un homme riche de sa connaissance, et ce, après lui avoir assuré à maintes reprises qu'il se trouvait dans le besoin. Le jour même, son bienfaiteur le rencontre au restaurant, installé devant un plat de saumon à la mayonnaise. Il lui fait alors ses reproches. Quoi? Vous m'empruntez de l'argent et ensuite vous commandez du saumon à la mayonnaise? C'est pour des choses comme ça que vous avez besoin de mon argent. Je ne vous comprends pas, répond l'homme mis en cause. Quand je n'ai pas d'argent, je ne peux pas manger de saumon à la mayonnaise, et quand j'ai de l'argent, je ne dois pas manger de saumon à la mayonnaise, mais qu'en diable voulez-vous que je mange du saumon à la mayonnaise? Donc, pour Freud, cette histoire présente un typique déplacement, c'est-à-dire que deux jeux de langage différents s'embranchent, ce qui crée une incompatibilité et de là, le sentiment de rire. D'un côté, la question du créancier s'inscrit dans une logique qui est économe, qui par extension donc réfère à une moralité qui est économique, et de l'autre côté, le débiteur s'inscrit dans la logique fantasmatique qui est liée au monde des désirs et des pulsions, par définition infinie. Le déplacement Qu'en diable voulez-vous que je mange du saumon à la mayonnaise? Inscrit le fantasme dans la moralité économique, là où il ne peut pas vraiment rester, sinon en coûtant du côté de la logique. C'est-à-dire que le luxe, ne peut jamais devenir une nécessité. À la fin de cette conférence, j'aimerais vous avoir démontré que le saumon à la mayonnaise est l'enjeu de la dette. Car la dette, notamment inscrite dans nos échanges marchands et nos relations fiduciaires, travaille à se rendre constamment évidente pour rendre son système de valeurs performatif. Mais il n'en est rien la plupart du temps, et c'est cette absence d'évidence qui constitue tout l'intérêt pour moi de non pas faire une critique ou une analyse de la dette, mais de penser à un imaginaire de la dette qui est un peu différent. Donc, j'aimerais vous permettre de saisir de quoi procède justement cet imaginaire de la dette. D'abord, en effectuant des distinctions simples que je vais raffiner donc au fil de mon analyse. J'entends par dette une relation comptable entre un sujet, le débiteur, et un autre sujet, le créancier. Donc, celui qui demande et celui qui donne. L'imaginaire qui en ressort, en reprenant ici les termes de Charles Taylor, qui définit donc le terme d'imaginaire social, l'une de ses exceptions, prend la forme d'une compréhension commune qui rend possible des pratiques communes et un sentiment de légitimité largement partagé à propos de celle-ci. C'est cette idée de partager quelque chose qui crée l'idée d'un imaginaire commun. La dette comme relation comptable au cœur de la finance et de l'économie de marché moderne sera donc abordée dans mes recherches comme une figure capable dans sa représentation de réfracter cette compréhension commune. À travers d'abord des enjeux narratifs au cœur de la modernité, parce que la dette donc est un vecteur est toujours liée donc d'une certaine façon au temps et donc à une forme de narrativité. Également des enjeux moraux et éthiques. Nietzsche avait cette formule qui disait que le sentiment de dette vient du sentiment de faute, les deux sont interreliés de façon généalogique. Et enfin, à des enjeux de communauté et de filiation, parce que la dette, qu'on appelle, que je vais nommer plus tard la dette communiste, est liée à des conditions d'appartenance, disons, depuis ses premières racines, ses premières exceptions, et dans certaines formes de société, donc encore à l'œuvre aujourd'hui. Donc, dans ce qui m'intéresse, avec la dette, c'est justement ici ce que j'ai présenté, c'est-à-dire le saumon à la mayonnaise. C'est-à-dire, la dette gagne en pertinence pour moi quand elle accroche, quand elle semble ne plus couler de source, quand les données de cette dette-là ne sont pas respectées. On peut avoir donc une désobéissance envers la dette, une désobéissance envers ses règles, ce qui crée une banqueroute ou une faillite, mais plus encore, il peut ne pas avoir de désobéissance ou ne pas avoir de désobéissance reconnue de part et d'autre chez le débiteur et chez le créancier. Et alors, on arrive dans une scène qui ressemble et qui reprend le modus operandi du saumon à la mayonnaise que j'ai présenté ici. Je vais revenir sur tout ça plus tard, mais avant, pour peut-être bien installer cette question, j'aimerais commencer par un exemple qui est un exemple central de point de vue biographique dans ma vie pour ce qui est de parler de la dette, c'est-à-dire, non pas, je ne vais pas vous raconter un aspect de mon rapport à la dette personnelle, mais l'œuvre qui m'a amené à m'interroger justement sur cette question de la dette et de l'endettement et plus largement du crédit. Donc, j'ai rencontré cette question de façon centrale dans Marielle Chapdelaine de Louis Aymon. C'est donc en préparant l'ouvrage « J'ai cette écartée, enquête sur la mort de François Paradis » que j'ai coécrit avec Thomas Carrier-Lafleur que pour la première fois, j'ai vu comment la dette pouvait, de façon, oui, secondaire dans une œuvre, hein, la dette n'est pas très importante dans le livre, pouvait avoir donc une résonance centrale si on l'analysait comme vraiment un vecteur moral et un vecteur narratif. Donc, c'est la démonstration que j'aimerais maintenant faire pour pouvoir vous présenter cet imaginaire. Donc, ce sont les mots de François Paradis à un moment où est-ce qu'il se présente chez les Chapdelaine pour mettre de l'avant son identité de bon parti et de bon prétendant. Donc, François Paradis dit, notamment à la mère Chapdelaine, « Non, je n'ai jamais eu de trouble avec les sauvages. Je me suis toujours bien accordé avec eux. Ceux de la Mistassini et de la rivière d'Issite, je les connais presque tous parce qu'ils venaient chez nous avant la mort de mon frère. » Dira-t-il donc au Chapdelaine. Devant l'auditoire attentif, il expliquera aussitôt ce bon voisinage par une aventure. Seul dans les bois, François Paradis père va malencontreusement être écrasé par un arbre qui l'abattait. Les sauvages qui chassaient dans le coin auraient bien pu faire semblant de ne pas le voir et le laisser mourir là, mentionne François Paradis fils, mais plutôt ils le sauvent puis le guérissent. Pour rembourser cette dette, le père de François se fait un devoir de les convier chez lui quand ils descendront du nord. François Paradis de Mistassini, il leur a dit, vous n'oublierez pas, François Paradis. Le jeune héros est d'autant plus lié donc à cette dette qu'il partage ici le nom du père. Des années plus tard, François fils reçoit le contre-coup de cette bienveillance des Premières Nations par son nom, donc il s'inscrit explicitement dans le réseau transactionnel. Parce qu'il faut le mentionner, hein, je parle de réseau transactionnel, le père de François fait cadeau à ses créanciers de belles couvertes de laine, de tabac et de haches neuves et après ce don qui est censé rembourser la dette de vie, les sauvages, dit François, s'arrêtaient chez les paradis tous les printemps et le père avait toujours le choix de leur plus belle peau pour moins cher que les agents des compagnies. Ce pacte entre les paradis et les membres des Premières Nations va traverser les générations. Et c'est la fin de l'anecdote de François Paradis. Hein. Quand il est mort, ça a été tout pareil avec moi parce que j'étais son fils et que mon nom était pareil. Bon, dans l'analyse que je traçais de ce passage, dans les sept écartés, j'en venais à montrer comment la mécompréhension de François Paradis le menait à imaginer que les Premières Nations lui devaient toujours quelque chose. Or, à bien regarder l'ardoise, il ne fait pas de doute que François Paradis père a payé sa dette de vie par de menus babioles et qu'ensuite, il a bénéficié d'un marché qui l'a plutôt remis en dette. C'est un exemple colonial typique, mais déterminant. D'un côté, on a les Premières Nations qui semblent travailler sur le fond de ce que l'anthropologue David Graeber nomme la dette communiste. Cette dette, hein, qu'il nomme dette communiste avec un peu de provocation, il le confie. Prenons avec ce que Marcel Mauss a théorisé comme don contre don. Les dettes dans ce système agissent selon le principe de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. C'est l'expression de Graeber. Ce système est à la base de la dette, postule l'anthropologue, bien qu'il reste généralement à l'extérieur de la réalité financière. Un exemple qu'utilise l'anthropologue pour l'illustrer, c'est celui d'un enfant tombé sur les rails de métro. Nous postulons, dit-il, que tout individu capable de l'aider le fera. Donc, hein, chacun selon ses capacités, chacun selon, donc, c'est ce qui inscrit l'individu dans cette dette communiste. Comme le fait Jacques T. Godbout dans un essai sur l'esprit du don, Graeber montre comment nos sociétés impersonnelles et divisées en classes sociales acceptent difficilement la dette communiste. elle se réduit à peu de choses. On pourra, dans la rue, demander à quelqu'un l'heure qu'il est, on pourra demander à quelqu'un la direction à prendre. Ce sont des petites dettes communistes qu'on pourra donc actualiser, mais on ne pourra pas lui demander de nous nourrir pour l'année, par exemple. Dans les sociétés plus restreintes et moins impersonnelles, la logique de la dette communiste ira beaucoup plus loin. Donner de la nourriture à qui a faim est une obligation chez plusieurs peuples de cette nature, par exemple. Et on le voit dans les récits du Canada français avant les années 50. Hein, le personnage du quêteux, c'est un devoir moral pour tout le monde de le nourrir. Voici le moyen le plus sûr de savoir qu'on est en présence de relations communistes, écrit Graeber. Non seulement personne ne compte, hein, non seulement personne ne tient les comptes, mais l'idée même de compter paraîtrait blessante et extravagante. Donc, d'un côté, les membres des Premières Nations agissent suivant une telle dette communiste dans Maya Chapdelaine. De l'autre côté, François Paradis fonctionne sur le fond de ce qu'on appelle une dette d'échange. Reprenons justement François Paradis. Son mode de vie, sa pensée, sa manière de la déployer présente une réalité qui est, je dirais, confusément comptable. La première chose qu'il dit à Maria pour la charmer, c'est « je n'ai pas de dette ». C'est son gros atout qu'il met sur la table dès son arrivée. Si les Premières Nations investissent sur le mode de la relation communiste, leur rapport aux autres, François, lui, évalue sur le mode rationalisé des intérêts propres à une relation commerciale d'échange, à savoir le mode de relation premier dans le système capitaliste. Je l'ai dit, il y a ici donc un hiatus central dans la relation coloniale, et l'imaginaire de la dette paraît accueillir deux visions du monde qui sont irréconciliables ou en tout cas irréconciliables au sein d'une même transaction. Denis Delage et Jean-Philippe Warren écrivent de façon très claire dans Le piège de la liberté qu'en niant d'un ton ferme l'ensauvagement des Canadiens français, qui ne se seraient jamais rapprochés des sauvages que dans le but très pieux de faire progresser la foi et la civilisation, les élites politiques et religieuses vont construire une histoire dans laquelle les Autochtones ne font que recevoir la foi, l'écriture, les biens matériels, la langue française, la science, et les colons que donner. Dans ce récit, le don est sans contre-don. Or, un don sans contre-don ne rapproche pas les gens, il oblige. Un don qui ne s'inscrit pas dans la réciprocité opprime et exclut. En niant devoir quoi que ce soit aux Amérindiens, les Euro-Canadiens non seulement s'attribueront le beau rôle dans l'histoire coloniale, mais aussi penseront du même coup se trouver quittes envers les premiers occupants du continent. Cette citation reprend pour moi la relation unissant François Paradis à ceux qu'il nomme ses sauvages et nous permet d'en saisir la fêlure. François Paradis doit sa vie aux Premières Nations, qui passaient par là pour sauver son père. Il se présente toutefois quitte envers eux, selon un saut entre un régime d'obligation et l'autre, qui est le régime d'échange. Il y a, pourrait-on dire, un mauvais calcul. Hein. La vie du père ne valait pas quelques objets, ceux que le père a donnés aux Amérindiens pour remercier de sa vie sauvée. Ce que la vie du père valait, c'était une reconnaissance, une gratitude continue qui met en relation, pas une transformation obligataire en échange marchand, hein, pas ce passage d'un régime à l'autre. Dans La philosophie de l'argent, Georges Simmel a cette belle formule, hein, Simmel dit « L'argent crée des relations entre les humains, mais c'est en laissant les humains en dehors de celles-ci. » Ça signifie que les relations marchandes sont réduites au matériel et évincent l'humain qui était auparavant au cœur des relations non fiduciaires. Pour résumer, on ne peut passer d'un régime communiste à un régime d'échange dans une même transaction. Quelque chose accroche toujours. Transformer l'obligation communautaire en dette financière à apurer poursuit la relation nouée, mais, pour reprendre Simmel, en laissant les humains à l'extérieur. De cette mécompréhension pourraient parvenir les signes de la mort de François Paradis, fils dans Maya Chapdelaine. Hein, il va mentionner avant de mourir, là où passent les sauvages, je passe, hein, pour pouvoir justifier le fait qu'il va traverser une grande étendue désertique en pleine tempête de neige. Il va s'écarter, il va mourir, et on pourrait dire, et c'est l'analyse que je proposais dans les sites écartés, on pourrait dire que les sauvages, justement, ne lui devaient rien, alors qu'il croyait que les sauvages lui devaient encore la vie, parce qu'il avait un rapport fêlé à cette dette. Donc, pour résumer cette situation, on pourrait dire que François Paradis n'avait pas droit au saumon à la mayonnaise. On peut facilement comprendre devant cette relation schématisée que les colons reprocheront aux Premières Nations de gaspiller leurs ressources, un gaspillage dont on va justifier le reproche par le fait que ces ressources qui sont gaspillées, ce sont les colons et les colonisateurs qui les ont rendues disponibles. Chez Freud, le reproche vient de bon droit du créancier puisque nous sommes dans un système d'échange, c'est lui qui a donné l'argent et le débiteur va effectivement dépenser son argent. Mais dans la relation coloniale, le saumon à la mayonnaise est reproché par le débiteur, qui se refuse tel parce qu'il oppose un autre système. Les deux individus ne se posent pas dans le même système, ce qui crée ce hiatus. Donc, c'est sous la forme de paraboles insérées dans les fictions depuis les années 1840 jusqu'aux années 1960 que cet imaginaire de la dette et ses contradictions internes paraissent les plus apparentes. J'aimerais maintenant en inspecter deux chez Philippe Aubert de Gaspé père et chez Germaine Guévremont. Dans les deux cas, vous verrez, le système d'échange est opposé à un autre système, celui communiste, mais aussi un troisième système d'échange qui est lié à la dette qui se nomme le régime hiérarchique, qui est issu, lui, de l'Ancien Régime. Cette confluence des systèmes, dans tous les cas, rend ambigu ce que s'endetter veut dire, et c'est ce qui vraiment m'intéresse dans l'imaginaire de la dette. Gilles Marcotte notait dans sa lecture des Anciens Canadiens comment ce roman était en fait structuré par la dette. Cette structure apparaît dès les premières pages quand le personnage de Jules d'Aberville, collégien, permet à un camarade de rembourser une dette, même si ce camarade était en fait son direct concurrent. La structure va enfler, tout le roman vraiment est habité par cette idée de dette et de remboursement, lorsque Archer va sauver un habitant qui est coincé dans les eaux après une débâcle, amenant plus tard dans le récit l'habitant sauvé à sauver Archer qui est sur le point de se faire griller par les Premières Nations qui l'ont enlevé. Ensuite, Archer sera contraint durant la guerre de conquête de brûler le manoir d'Aberville parce qu'il est sous les ordres d'un méchant général anglais. Mais en contrepartie, Archer va sauver la famille d'Aberville qui était condamnée à l'exil. Un exil qui était d'autant plus fatal que c'est un exil sur un mauvais bateau qui va brûler à son tour et faire naufrage. Donc, il y a une suite de dettes et de remboursements qui vont vraiment structurer ce récit. Mais au-delà donc de cette structure, il y a tout un impensé dans les textes de Philippe Aubert de Gaspé. Marc-André Bernier et Claude Lacharité, en préface des mémoires d'Aubert de Gaspé, soulignent d'ailleurs les grands silences dans l'œuvre du Seigneur ruiné. Il y a deux grands silences, postule-t-il. Le premier, c'est le fait que Philippe Aubert de Gaspé donc fera une faillite tonitruante dans sa vie. Il fera 4 ans de prison en raison de cette faillite. Mais dans ses mémoires, il n'en dit pas un mot. Il préfère raconter la vie d'Ancien Régime, la vie de la Nouvelle-France, alors qu'il est né en 1786, donc bien après la fin de l'Ancien Régime au Canada, bien après du moins la fin de la Nouvelle-France. Et l'autre élément que passe sous silence Philippe Aubert de Gaspé, c'est le décès de son fils, Philippe Aubert de Gaspé, deuxième du nom, qui est aussi le premier romancier canadien-français, auteur de l'influence d'un livre, qui va décéder alors que Philippe Aubert de Gaspé, son père, est en prison. Donc, deux grands drames qui sont structurants dans la vie de Philippe Aubert de Gaspé sont ici, donc, cachés. Mon but n'est pas de faire de la biographie, mais simplement de relever que ce silence dans les écrits autobiographiques de l'écrivain s'explique pour Bernier et Lacharité par un déplacement de l'anecdote biographique au cœur même du roman d'Aubert de Gaspé. Parce que c'est vraiment dans le chapitre « Le bon gentilhomme » que l'écrivain présente l'histoire d'un aristocrate déchu, désargenté, ruiné, et dont la ruine est vécue comme une injustice. Et alors tout le chapitre va prendre une forme de plaidoyer auto-justificateur. Dès les épigraphes de ce chapitre, on remarque une valorisation de la misanthropie. Et Monsieur d'Egmont, le bon gentilhomme, ressemble bel et bien à un misanthrope vivant très simplement avec son serviteur dans le plus grand dénuement. En tant qu'aristocrate déchu, il vit d'une maigre rente, nous dit la narration, qui est faite de ses maigres épargnes ainsi que de celles de son serviteur. On précise même que les épargnes du valet surpassaient celles du maître. Était-ce bien honorable à M. d'Egmont de vivre en partie des épargnes de son serviteur, demande-t-on. Et on peut dire rapidement que tout ce chapitre ne vise que ça, nous assurer de l'honneur de ce noble. Il reste honorable malgré la situation déshonorante dans laquelle il est plongé. Donc je vais raconter rapidement la situation de M. d'Egmont avant d'expliciter cet enjeu d'honneur au cœur de son long récit. Lequel donc constitue en une sorte de discours direct l'ensemble ou presque du chapitre. C'est un des longs chapitres d'ailleurs des anciens Canadiens et c'est durant plusieurs pages le récit que M. d'Egmont fait à Jules d'Aberville pour y expliquer à quel point il est honorable. Donc, le récit c'est celui-ci. M. d'Egmont était un riche aristocrate d'une bonne famille en France. Il avait toutes les qualités, nous raconte-t-il, dont celle de la plus grande générosité. Sauf que tout le monde se met à abuser de cette générosité très vite. D'une grande intelligence, toutes les carrières m'étaient ouvertes, dit-il. J'obtais une place de haute confiance dans les bureaux. Avec mes dispositions, c'était courir à ma perte. J'étais riche par moi-même. Mon père m'avait laissé une brillante fortune. Les émoluments de ma place étaient considérables. Je maniais un rouleau d'or que je méprisais. Et donc, ce qui devait arriver arriva. On se rua dans la belle société sur ce trop généreux monsieur d'Egmont. Je ne leur garde aucune rancune. Ils agissaient suivant leur nature. Quand la bête carnassière a faim, elle dévore tout ce qu'elle rencontre. Incapable de refuser un service, ma main ne se ferma plus. Je devins non seulement leur banquier, mais si quelqu'un avait besoin d'une caution, d'un endossement de billets, ma signature était à la disposition de tout le monde. Cette générosité devient donc une sorte de tare, celle qui est à la racine de sa ruine, et non pas l'attitude carnassière des hommes qui est décrite comme naturelle. Cette structure rhétorique, qui est une reconnaissance de tare, permet au bon gentilhomme de racheter par une forme d'excès de naïveté peut-être, le véritable crime dont il fut reconnu coupable. Mes affaires privées étaient tellement mêlées avec celles de mon bureau que je fus assez longtemps sans m'apercevoir de leur état alarmant. Lorsque je découvris la vérité, après un examen de mes comptes, je fus frappé comme d'un coup de foudre. Non seulement j'étais ruiné, mais aussi sous le poids d'une défalcation considérable. Le récit se poursuit un peu longuement, le bon gentilhomme disserte sur les gratitudes contemporaines, se plaint de son emprisonnement, et il en vient enfin à la petite parabole sur laquelle j'aimerais m'arrêter. Mais juste avant, je dois quand même prendre un peu de temps pour développer trois éléments historiques et sémantiques qui vous permettront peut-être d'apprécier davantage la valeur de cette parabole. Le premier élément, c'est un élément qui est lié au droit à la faillite. Dans son très complet traité de la faillite de Louis-Joseph de la Durantaie, qui est un éminent juriste canadien, dont l'ouvrage, ici je suis moins sûr, mais dont l'ouvrage, comme l'écrit Berthelot Brunet dans son Histoire de la littérature canadienne, est une lecture agréable même pour un profane. Je ne partage pas son enthousiasme. Donc, son ouvrage refait l'histoire de la faillite depuis le droit romain jusqu'au droit germanique pour se concentrer ensuite sur la common law, dont il fait donc un commentaire sur plus de 300 pages. Common law dont le Bas-Canada devait répondre au 19e siècle. Le juriste montre comment la contrainte du corps, donc enfermer quelqu'un qui est sous une créance, a très rapidement été abandonné dans le droit romain, tant les dettes étaient concentrées entre chevaliers et praticiens riches. Hein, comme c'était la haute société qui était en dette, on n'allait pas la mettre en prison. Mais le droit germanique a réinstauré cette contrainte du corps, qui pouvait mener aussi et principalement à l'esclavage, notamment en raison de l'honneur qu'on attachait à la dette et à son défaut. Cette question d'honneur se collait toutefois difficilement aux termes juridiques, et on a préféré notamment dans l'édit de 1285 en Grande-Bretagne parler de fraude. Mais il fallut bien, écrit de la Durantaie, réprimer les fraudes qui se multipliaient avec l'essor du commerce. Une première fois en 1285, on décréta l'arrestation des débiteurs sous l'empire de la loi marchande. Au XVIIe siècle, on a instauré diverses exceptions, dont la plus importante touche les marchands. Les marchands, soudainement, avaient le droit à la banqueroute, le droit à la bankruptcy, qui les mettait en théorie, sauf en cas de fraude patente et démontrable, à l'abri de la contrainte du corps. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le droit ne suppose plus, avec le droit à la bankruptcy, ne suppose plus de facto que le défaut de paiement est une fraude. Le commerçant peut faillir sans frauder, alors que le terme fraude de 1285, c'était simplement ne pas rembourser ses dettes dans le terme prescrit. On était fraudeur dès ce moment-là. Donc, le particulier non commerçant ne pouvait pas, lui, encore faire banqueroute, puisque, comme l'écrit la Durantaye, il n'avait pas pour excuse de son insolvabilité, comme le commerçant, les risques et les périls d'une exploitation. Ce n'est qu'en 1810 que la Common Law s'amenda, ajoutant à la bankruptcy réservée aux commerçants l'insolvency pour les particuliers. Ce droit va se nommer donc en français le droit à la déconfiture, mais il ne sera appliqué au Bas-Canada qu'après la Confédération de 1867. Avant cela, donc, on était encore sous l'édit de 1673, ce qui faisait en sorte que quand on faisait faillite, on pouvait encore, comme particulier, aller en prison, à ceci près que c'était aux créanciers de payer les repas du débiteur, ce qui est un peu particulier. J'en viens au deuxième élément, le régime de la déconfiture, qui me paraît fondamental. La philosophe Nathalie Sartoulaju montre que la dette représentée au début du 19e siècle, notamment dans le cycle balzacien, est toujours liée à une forme de faute et donc à la morale. C'est la citation que vous avez. Dans une société bourgeoise capitaliste qui place très haut dans la hiérarchie des valeurs la bonne tenue des comptes, l'endettement économique est encore lié au naufrage moral. À ce titre, le Gobseck de Balzac montre bien ce rapprochement entre la dette et la faute lors de l'ascension des valeurs bourgeoises dans le Paris du 19e siècle. Les hommes vont chez l'usurier juif comme à la confesse, contraints d'avouer des vices qui leur coûtent cher. En effet, l'endettement économique sert toujours à payer les conséquences matérielles d'une faute morale. Cette confesse, cette traduction de la faute morale intemporelle en bien matériel et fort temporel, répète ce qu'un autre critique, Alexandre Perrault, nomme dans son analyse de la dette chez Balzac, la fiduciarisation sociale, qui détermine alors toutes les relations en les liant sous le sceau du crédit. Ce serait cela vraiment, donc cette fiduciarisation sociale, la grande nouveauté historique de la Restauration. Je cite Perrault qui dit: l'hégémonie du crédit implique ainsi la généralisation d'une confiance conventionnelle qui, au rebours des anciennes sociabilités liées au don ou à la gratuité, soumet l'ensemble de la vie de l'individu aux virtualités du contrat et à la nécessité du remboursement. Donc, si peut-être pour démêler un peu ce que dit Perrault lorsqu'il traite de gratuité, il parle moins d'un système de dette communiste qui fait en sorte qu'on se met en dette gratuitement, hein, simplement pour la communauté, que de notre système qui viendra plus tard, qu'on nomme la dette hiérarchique, qui supposait donc, ce système supposait chez l'homme d'honneur sa domination sans remboursement envers ses obligés. Ce non-remboursement était au cœur d'ailleurs de son statut, de son identité et de son existence. La Restauration racontée par Balzac explique ce déplacement efférent de la morale avec des exemples comme la peau de chagrin qui devient une véritable lettre de change fantastique qui va jusqu'à tuer donc le débiteur incapable de la rembourser, étant donné qu'on ne peut rembourser le temps. Bon, tout ça pour parler du terme déconfiture, qu'il ait été préféré en français longtemps au terme insolvabilité en dit beaucoup. La déconfiture dans le littré met la défaite complète en première définition et la deuxième est effectivement le synonyme d'insolvabilité. Dans le Robert, on retrouve le même ordre, sauf qu'on souligne dans cette défaite complète qu'elle est une défaite morale. Seul le CNRTL met la faillite comme première définition, en utilisant d'ailleurs le Code civil de 1804 comme illustration. En ce sens-là, tout comme le faillir de faillite, la déconfiture est déjà morale, elle est déjà liée à l'échec, à l'incapacité, alors que la banqueroute de bankruptcy ne suppose pas la faute dans son étymologie, tout comme l'insolvency est un terme descriptif et non chargé moralement. Hein. Quelqu'un qui est insolvable, c'est quelqu'un qui ne saurait, ne pourrait rembourser. Ainsi, la défense qu'oppose M. d'Egmont dans son texte, dans son chapitre, est avant tout morale, elle est très peu judiciaire, elle est très peu économique. La déconfiture est présentée comme celle d'une personnalité, pas celle d'une fortune. Mon dernier élément, je vais aller beaucoup plus rapidement sur celui-là, c'est la défalcation. sous le poids d'une défalcation considérable, dit d'Egmont pour raconter son malheur. Jusqu'ici, il a utilisé la common law pour parler de la situation judiciaire du personnage, malgré le fait que d'Egmont se raconte comme appartenant à la métropole française. Je me permets cette excentricité extra-textuelle pour une bonne raison contenue dans ce terme, hein, défalcation. Il s'agit en fait d'un canadianisme qui est attaché au droit anglais dans l'article sur la fraude. To defalcate, ça signifie en anglais détourner des fonds. Mais en français, et disons en français métropolitain, la défalcation, c'est simplement une soustraction. Il n'y a pas d'enjeu de faute, il n'y a pas d'enjeu de fraude. Donc, en se repliant sur un terme juridique anglo-saxon, le texte peut éviter le terme moral français qui est, lui, fraude. Il peut aussi utiliser un substantif sans verbe. Défalquer n'existe pas dans le sens de frauder, même au Canada. Il peut aussi utiliser un substantif sans verbe, c'est ce que j'ai déjà dit. Et donc, la défalcation fait en sorte que le fraudeur ne peut être actif dans sa fraude. Hein, comme il ne peut défalquer, il ne peut être actif dans sa fraude. Dernier élément, donc, défalcation n'est juridiquement probant qu'au Bas-Canada. Ce n'est un crime que selon cette traduction en faux amis de la common law, dans le droit donc qui est pratiqué au Québec de l'époque. Ce qui me permet de lire cet enjeu donc en regard du droit anglais. Autre élément que je voudrais quand même expliciter, c'est que cette défalcation est implicite jusqu'ici. Peut-être que vous ne savez pas exactement à quoi avec quoi ça résonne. Mais en gros, on le comprend en lisant les anciens Canadiens. Monsieur d'Egmont donne de l'argent à tout le monde qui lui en demande, mais en plus, il signe des billets à tout le monde qui lui demande sa signature. Ce qui fait en sorte qu'il consent à des prêts au nom d'autres personnes. Il se donne garant de plein de prêts en son nom. À ce moment-là, il était responsable d'un ministère, on semble le comprendre, et en tant que responsable du ministère, il engage le ministère lui-même à rembourser les billets qu'il signe, ce qui est le détournement de fonds, la défalcation dont il parle, c'est-à-dire qu'il s'endette avec des fonds qui ne sont pas les siens. Donc, sur le coup d'une défalcation considérable est l'expression centrale dans le récit de faillite de M. d'Egmont, il devient ici objet d'une forme de crime. C'est lui qui est sous le coup et non pas une victime hypothétique qui l'aurait trompé. De même pour sa déconfiture, elle est la conséquence de sa générosité, de son honneur. Tout son récit nous raconte l'échec moral de sa société bien davantage que son échec à lui. Enfin, s'il ira 4 ans en prison, j'arrive à la parabole, il en dénoncera l'injustice et l'absurdité en passant sous silence, ce qui vraiment justifie son emprisonnement. Il va vouloir se cacher derrière le fait qu'il n'a été qu'endetté alors qu'il a détourné des fonds. Et qu'un détournement de fonds, qu'importe dans quel pays on est, qu'importe la logique du droit, c'est toujours passible de prison. J'en arrive donc à la parabole que je mettrai ensuite donc en contexte avec une autre petite anecdote de M. d'Egmont. Il traite alors de son emprisonnement pour défalcation. Il fait un petit pas de côté pour pouvoir expliquer le manque de logique de tout cela. Une chose m'a toujours frappé, c'est que la civilisation fausse le jugement des hommes et qu'en fait de sens commun, de gros bon sens, que l'on doit s'attendre à rencontrer dans la cervelle de tout être civilisé, le sauvage lui est bien supérieur. En voici un exemple assez amusant. Un Iroquois contemplait il y a quelques années à New York un vaste édifice d'assez sinistre apparence. Ses hauts murs, ses fenêtres grillées l'intriguaient beaucoup. C'était une prison. Arrive un magistrat. Le visage pâle veut-il dire à son frère, fil indien, à quoi sert ce grand wigwam? Le citadin se rengorge et répond d'un ton important. C'est là qu'on enferme les peaux rouges qui refusent de livrer les peaux de castor qu'ils doivent aux marchands. L'Iroquois examine l'édifice avec un intérêt toujours croissant, on fait le tour et demande à être introduit dans l'intérieur de ce wigwam merveilleux. Le magistrat, qui était aussi marchand, se garde bien de le refuser, espérant inspirer une terreur salutaire aux autres sauvages, auxquels celui-ci ne manquerait pas de raconter les moyens spirituels autant qu'ingénieux qu'ont les visages pâles pour obliger les peaux rouges à payer leurs dettes. L'Iroquois visite tout l'édifice avec le soin le plus minutieux, descend dans les cachots, sonde les pluies, prête l'oreille au moindre bruit qu'il entend et finit par dire en riant aux éclats « Mes sauvages, pas capables de prendre castor ici. » L'Indien, dans 5 minutes, donna la solution d'un problème que l'homme civilisé n'a pas encore eu le bon sens, le gros sens commun de résoudre après des siècles d'études. Bon, cette parabole, vous l'aurez compris, vous l'aurez peut-être même noté, a pour centre une petite phrase, hein, les moyens spirituels autant qu'ingénieux qu'ont les visages pâles pour obliger les peaux rouges à payer leurs dettes. Il y a ici virtuellement une contradiction que l'anecdote souligne, hein, comment obliger les peaux rouges à rembourser leurs dettes s'ils sont enfermés et sans moyens. Je dis virtuellement parce que l'emprisonnement est une menace évidemment qui est en amont et qui doit faire craindre le défaut de paiement. Elle est effectivement peu productive en aval, empêchant quiconque de se refaire comme le veut l'expression. On ne veut pas se refaire en prison. On pourrait donc résumer cette parabole par la traduction en Occident de la dette en faute. C'est pas parce que la dette, et plus encore la dette non remboursée, est une faute qu'elle peut susciter un emprisonnement, et l'emprisonnement retire le sujet endetté, donc, de la relation d'échange, en raison de la faute. La déconfiture est morale, elle touche à l'honneur, et en ce sens, elle se rattache au système des obligations de la dette communiste. Si on ne rembourse pas, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. Ce passage d'un système à l'autre constitue la contradiction virtuelle de cet extrait, et elle se résout par la transformation de l'honneur en marchandise. Cet aspect apparaît dans la première réplique du magistrat, hein, enfermer les peaux rouges par le refus de livrer les peaux de castor. Une peau remplace une autre, la marchandise, l'échange, persiste sur l'honneur et la faute. Cet exemple n'est pas sans rappeler évidemment le phénomène qu'on avait observé donc tout à l'heure avec Maria Chapdelaine. J'ai désigné ce passage comme une parabole. Bon, je vois que le temps file, je ne vais pas m'arrêter vraiment sur cet aspect-là, mais disons que l'idée de parabole est bien présente par les formulations, arrive magistrat, un Iroquois contemplé il y a quelques années, et ça réfère bien donc à un ton qu'on rencontre dans les anciens Canadiens à plusieurs moments, où est-ce que des récits un peu fantastiques permettent de se faire se coller deux espaces-temps qui sont éloignés, et deux régimes de valeurs aussi qui ne sont pas en adéquation. La stratégie narrative à l'œuvre est un peu grossière, mais la parabole, par sa force de décontextualisation, permet d'accentuer et d'oblitérer certains aspects de la relation fiduciaire. Elle accentue le caractère intéressé du droit anglais, notamment en mentionnant que le magistrat est aussi marchand, alors qu'on pense plutôt le droit dans sa pureté, avec cette idée d'une noblesse de robe, d'une noblesse de magistrat, de judiciaire, par exemple. Donc, il y a cette idée de décontextualisation qui est bien présentée aussi par cette parabole. Je crois qu'on ne peut comprendre cette stratégie justificative sans l'inscrire dans une tripartition. La parabole agit de façon duelle entre une économie obligataire et archaïque et une économie qui est marchande. Sauf que M. d'Egmont, comme les héros balzaciens, faillit depuis un troisième régime, celui des relations hiérarchiques basées sur l'essentialisation des identités. Pour le dire simplement, le système des relations hiérarchiques permet aux castes supérieures de s'élever dans l'honneur par leurs dons, c'est le système de la charité, et par des tribus reçues, c'est l'ancêtre du système de l'impôt. C'est un système qui est taillé dans la passion et ses corrélatives vertus héroïques et contre les intérêts, pour reprendre la position d'Albert Hirschman. Il n'y a pas d'échange, comme dans les systèmes communistes, mais il y a une domination d'un groupe sur un autre, dans le don même qu'on peut faire. Monsieur d'Egmont déchoit depuis sa position d'aristocrate fortuné. Ce qu'il perd, ce n'est pas son appartenance à la société, il la rejette lui-même à cette société, mais c'est plutôt son honneur et sa vertu qu'on lui nie. Dès le début du chapitre, et j'ai sauté par-dessus cette anecdote auto-justificative que nous servait le bon gentilhomme, il mettait tout cela déjà en mots. Donc je vais faire un petit retour sur cette anecdote et ensuite je passerai rapidement au survenant. Donc ceci me rappelle une petite anecdote, dit-il au début du chapitre, après avoir raconté sa déconfiture ou le début de sa déconfiture. Ce qu'il narre, c'est la venue d'un Huron sur ses terres 20 ans plus tôt. Souffrant des poumons, sur le point de mourir, le Huron est sauvé rapidement par M. d'Egmont qui le guérit et assure sa convalescence. Le Huron, dans une mise en abîme infinie, raconte alors sa vie. C'est cette citation. « Il me raconta qu'il était un grand guerrier, un grand chasseur, mais que l'usage immodéré de l'eau de feu avait été sa ruine, qu'il avait une forte dette à payer, mais qu'il serait plus sage à l'avenir. Des années plus tard, le Huron revient chez le bon gentilhomme. Il est bien habillé, richement habillé. Il transporte avec lui des pelleteries, des mocassins, plusieurs choses de grande valeur qu'il remet à son sauveur. « Je te dois beaucoup et je suis venu payer mes dettes, » dira-t-il. Or, d'Egmont veut refuser le don, sauf que son don lui est imposé. Le Huron se sauve. Et alors, donc, M. d'Egmont promet avoir vendu tous les biens de grande valeur et avoir donné tout l'argent à une tribu huronne avec intérêt, insiste-t-il. Donc, c'est en ce sens-là que d'Egmont appartient à un monde de relations hiérarchiques qui refuse remboursement, apuration. Il n'accepte en vérité qu'une domination morale, comme la charité le fait. Il ne veut pas être remboursé pour le don qu'il a fait. D'Egmont se tient dans un monde essentialisé d'honneur et de vertu, mais un monde où les honnêtes hommes sont en proie à la vilenaille du tiers-état, donc aux intérêts. On peut dire que la parabole venue après l'anecdote du sauvetage du Huron est lisible à de nouveaux frais. D'Egmont donne le bon sens à l'Iroquois tout en se situant moralement au-dessus de lui, en raison de son sauvetage non remboursé du Huron. Il y a là une économie morale qui est rendue complexe par la confluence de trois systèmes, tous trois traduits par un seul système, celui de la loi, donc la loi qui a condamné D'Egmont à la prison, un système qui est mené par l'échange et par le commerce. D'Egmont refuse la fiduciarisation sociale dont parle Alexandre Perrault. D'ailleurs, André, son serviteur, reste quand même son serviteur, même si ce sont les économies de ce dernier qui permettent de faire vivre le maître. Le rapport hiérarchique n'est pas entamé par le déséquilibre financier. Les Anciens Canadiens est donc l'antithèse du roman de formation balzacien. C'est le roman de la nostalgie où l'idéal et l'illusion d'un monde d'honneur et de gloire sera opposé jusqu'à la dernière page au monde vilain des intérêts. Donc je vais passer à ma deuxième parabole qui est beaucoup plus courte qu'on retrouve donc dans Le Survenant. En gros, ce que j'essayais de montrer dans cette deuxième partie, c'était qu'il existe deux économies qui ont été en concurrence donc dans l'histoire du Canada depuis le 19e siècle. Une économie qui est celle des élites, qui est menée par l'argent des Anglais, et qui est donc l'économie d'échange, l'économie capitaliste. Et l'autre économie, qui est une économie donc plus populaire, qui appartient aux habitants notamment, et qui s'inscrit dans un régime donc que j'ai défini, ou que David Graeber a défini comme communiste, c'est-à-dire que les gens s'entraident et se donnent en lien avec des obligations qui sont donc des obligations sociales et communautaires. Dès le 19e siècle, il existe donc une élite qui vit dans l'économie capitaliste. Hein, Philippe Aubert de Gaspé en était, Octave Crémazy, Louis-Antoine Dessaulles, plusieurs grands intellectuels québécois vont tous faire de tonitruantes faillites parce qu'ils sont dans ce régime donc d'économie particulier auquel ils s'adaptent difficilement. Mais il existe donc une forme de pérennité dans l'économie qui est plus populaire, qui est plus communiste et qui va être aussi persistée dans la fiction, dans l'imaginaire, grâce à l'idéologie du terroir. Et c'est symptomatique pour moi que les trois œuvres qui racontent la fin du terroir ou qui sont les symptômes de la fin du terroir sont des œuvres qui voient arriver l'économie capitaliste dans le régime d'économie communiste. Donc, dans Un homme et son péché, Séraphin Baudrier devient un méchant usurier qui exploite les habitants contre la moralité même du village et contre le bien commun, et il devient véritablement une forme d'ogre. Dans Trente arpents de Ringuet, le personnage de Carys Moisan décide, un peu par une forme d'hybris, de devenir une forme de spéculateur, alors qu'il était plutôt un habitant. Donc, par spéculateur, il place tout son argent entre les mains du notaire qui se promet comme étant le plus productif des notaires. Ça devient une forme de Vincent Lacroix qui part avec tout l'argent. Et d'autre part, Eucharis décide, en voyant le prix du grain monter, de tout engranger son grain sans le vendre pour essayer de le vendre donc au plus offrant. Sauf que voilà, sa grange passe au feu. Donc, le spéculateur est puni et donc l'idéal communautaire explose, mais on peut penser que l'idéal communautaire explose par l'arrivée de cette économie donc capitaliste. Et enfin, donc, j'en arrive au survenant. Dans Le Survenant, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est le personnage du Survenant, héros éponyme, qui en arrivant donc au Canada français, ce qu'il fait, c'est de montrer par le contraste que la société dans laquelle il est une société qui fonctionne selon un régime d'obligation, un régime communiste, mais un régime que les jeunes désaffectent, abandonnent, et lui-même est le seul personnage qui semble vouloir encore, c'est donc communiste, qui semble vouloir encore cette entraide. Et j'en arrive donc à la petite parabole qui est la suivante. Le survenant vient d'aller battre le lutteur le plus fort du monde, hein, à Sorel, dans un cirque, et donc il a reçu de l'argent pour avoir réussi ce combat. Il décide de payer la traite aux habitants, aux jeunes qui sont autour de lui. Et ensuite, il oblige le plus riche des jeunes habitants à payer la traite à son tour. Et bon, tout le monde est sous dans le bar à Sorel, on est un peu en colère contre lui parce que c'est comme s'il apportait le vice dans la communauté. Et le plus critique envers le survenant, c'est Amable, qui est décrit comme cupide, comme avare, comme calculateur. Et lui, il reproche vraiment ce gaspille d'argent pour le bien de la communauté, pour le bien de l'être ensemble, d'une certaine façon. Et donc, devant le reproche, voici ce qui se passe, c'est la parabole. Debout contre le mur, d'une voix presque prophétique, le survenant dit rêveusement « Ce qu'on donne à Amable est jamais perdu. Ce qu'on donne à un autre nous le remet avec une autre sorte de paye et souvent au moment où on s'attend à rien. J'ai connu un matelot qui jetait toujours à l'eau la première tranche de pain qu'il recevait sur le bateau. Il disait que dans un naufrage, c'était grâce à un goéland, s'il n'était pas mort de faim. Cast your bread, never mind. » Bon. Donc ici, hein, ce qu'on donne à un autre nous le remet. Il s'agit très clairement de l'ordre communiste dont parlait David Graeber, sur lequel est fondé d'ailleurs l'esprit du don. Le calcul du don est moins absent, écrit Jacques T. Godbout, que déplacé. Godbout montre bien comment les sociétés dominées par l'économie du don pensent un monde d'après la métaphore de l'apparition et de l'engendrement. Ça va de la naissance aux récoltes à l'économie. Alors que les sociétés modernes de l'économie d'échange utilisent une autre métaphore qui est celle de la production, de la reproduction et du travail. Le sujet humain est actif dans cet imaginaire et le hasard est colonisé par la maîtrise de la production et du travail. Donc, ici, il y a vraiment une forme de déplacement de cette idée d'une économie d'échange qui serait contrôlée vers une économie communautaire qui ne peut pas être contrôlée, qui la ramène donc à cette économie du non mesurable, hein, dont une économie dans laquelle on ne peut pas tenir les comptes. Donc, je vais conclure là-dessus. Comme l'Iroquois d'Aubert de Gaspé ne peut concevoir de faute dans la dette, donc une faute qui mériterait enfermement. Le matelot dans le survenant ne peut concevoir de gaspille dans le don. C'est, eh bien, regardez tout le problème de la dette coloniale de François Paradis. Parce que si ce capitaliste qui est François Paradis, si pour ce capitaliste être en dette est une faute, et si un don constitue du gaspille, alors il est par son nom en faute vis-à-vis des Premières Nations, parce que la dette de vie n'a jamais été remboursée, et le sauvé, lui, François Paradis, fils qui ne remboursera jamais sa dette, est un gaspille, et donc il est condamné doublement par sa propre morale économique. Ce que j'ai tenté de montrer aujourd'hui, c'est comment la faute se déplace, à quoi elle s'accroche aussi dans l'imaginaire de la dette. Chez D'Egmont, il tente de nous prouver que sa faute est sa noblesse, sa faute est sa gratuité, sa faute en gros est d'appartenir à un système, le système hiérarchique. Chez le survenant, la faute est l'intérêt qui coupe les liens sociaux, l'économie de l'échange qui réduit l'humain au calculable. Chez François Paradis, la faute est plutôt coloniale, c'est-à-dire refuser qu'on puisse être en dette envers autrui. Un certain autrui, ici, tout particulièrement. Donc, dans ces trois fictions, chacun est coupable d'avoir goûté du saumon à la mayonnaise alors qu'il n'en avait pas le droit. Mais le plus important, et ça nous ramène à l'histoire de Freud, c'est que chacun avait la certitude, selon son propre calcul, sa propre vision, que le système rendait tout à fait légitime le repas. Qu'en diable pourrais-je manger du saumon à la mayonnaise? C'est peut-être la question centrale de l'imaginaire de la dette qui dépasse les cadres de loi qui en serrent le crédit et qui dépasse l'économie de l'honneur qui lui donne sa morale et enfin donc qui dépasse les règles sociales qui permettent le don et nous lient comme humains. Cette question donc dépasse ces enjeux et donc permet pour moi de donner toute sa vitalité, son intérêt à l'analyse de la dette. Merci.